Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Claire Pereira. Bonjour.
Bonjour Yves.
Claire, tu es psychomotricienne.
Oui, tout à fait.
Et avec toi, Charlotte Leroy. Bonjour.
Bonjour.
Vous-même, vous êtes psychologue, neuropsychologue et aussi habilité au EMDR. Vous nous signifierez ce que cela veut dire. Alors, cette proposition donc, de groupe thérapeutique EMDR après les incendies, c'est ce qui vous amène sur ce plateau, puisque vous proposez une session durant le mois de septembre qui, hélas, ou tant mieux, est déjà complète. Est-ce que peut-être à l'avenir, d'autres propositions telles seront à envisager? Et donc, qu'est-ce qui vous a mis l'envie de proposer ces groupes thérapeutiques?
Eh ben, c'est dans le cadre du travail engagé par la CPTS, donc la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. C'est une association qui regroupe les soignants du territoire. Qui veulent adhérer et dans une optique de santé, ce qu'on appelle basée sur des preuves scientifiques. Donc de fait, cette structure-là, elle peut être contactée par l'ARS en cas de situation exceptionnelle, ce qui a été le cas pendant les incendies. Et du coup, dans nos financeurs, on a aussi la sécurité sociale. La CPAM. Donc à partir de là, on peut avoir des budgets là spécifiquement pour l'incendie. Et donc on a réfléchi à différents dispositifs depuis le début du mois de juillet. Et donc celui-ci, c'est le 4e, je crois, qui a été mis en place sur du coup des compétences territoriales qui étaient là pour le coup portées par Charlotte.
Vous semblez dire que c'est la 4e proposition. Qu'est-ce qu'il en est sorti des précédentes?
Nous, on est encore dedans, donc on n'a pas encore fait l'analyse complète de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on a pu proposer pendant 10 jours en juillet des permanences ouvertes avec à chaque fois un minimum de 2 soignants disponibles pour venir répondre aux questions ou apaiser les émotions. À la suite de cela, a été mis en place un dispositif permettant aux médecins traitants de repérer si des personnes vivaient toujours des émotions trop importantes vis-à-vis des incendies et du coup de permettre de proposer des consultations auprès de psychologues qui s'étaient proposés pour ça, qui ont été prises en charge là aussi par la CPTS sur les financements ARS-CPAM. Il y a eu aussi une séance en grand groupe de MDR, justement, qui a été en partenariat avec la CPTS et qui avait déjà été proposée en initiative individuelle à d'autres endroits du territoire. Et là, du coup, ce petit groupe-là thérapeutique qui sera co-animé et qui, en effet, est déjà complet.
Voilà. Je rappelle que ce groupe est constitué de 6 à 12 personnes pour 4 séances. Pareil pour vous, Charlotte. Vous êtes tout de suite engagée dans ce processus qui correspond à vos compétences, d'ailleurs. Et est-ce que vous en avez tiré, justement, de ces premières rencontres, même s'il n'y a pas de bilan encore avéré?
Ce qu'on a pu voir ensemble, c'est que l'existence même de ces dispositifs rassurait une partie de la population, ce qui peut aussi nous permettre de comprendre pourquoi certains dispositifs étaient plus ou moins saisis par les habitants, les habitantes, ce qui nous a permis aussi de continuer à les maintenir et les mettre en place. Donc celui-ci, c'est comme disait Claire, le 4e qui va commencer officiellement du coup mercredi. Sous la forme de 4 séances, une séance par semaine de 2 heures avec un groupe stable. Ça a été une catastrophe qui a touché des personnes, mais elle a aussi transformé finalement la vie d'une communauté. Et une communauté, on peut en avoir des définitions différentes. Parfois, un peu de façon spontanée, on pourrait se dire que ce sont des personnes qui ont des mêmes valeurs ou qui sont d'accord sur les mêmes choses. Mais on peut aussi voir la communauté comme un ensemble de personnes qui partagent des ressources, des risques et qui ont un avenir commun. Et donc, la réponse à ce qui s'est passé doit être à la fois individuelle et collective. Elle doit aussi renforcer les liens entre les habitants et les ressources du territoire qui existe déjà. Donc finalement, notre responsabilité comme soignants, c'est bien sûr d'accompagner les personnes, mais c'est aussi de renforcer les capacités de notre communauté à faire face aux épreuves. Donc notre objectif, il n'était pas seulement de répondre à une urgence, c'était aussi d'accompagner un territoire qui vient de vivre une épreuve collective, d'où le parcours de soins gradués et les différents dispositifs qu'on a mis en place. Ensuite, pourquoi le MDR ? Parce qu'après un incendie comme celui-ci, certaines personnes continuent à vivre avec un cerveau qui reste comme en état d'alerte. C'est pas seulement parce qu'elles repensent à ce qui s'est passé, mais c'est aussi parce que l'avenir est devenu un peu plus incertain. Beaucoup nous disent qu'elles ne regardent plus le vent de la même manière, la chaleur ou la météo de la même façon. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire croire que le risque n'existe pas. Ce serait faux. L'objectif, c'est que cette vigilance elles redeviennent une ressource plutôt qu'un état permanent. Que les personnes puissent finalement continuer à vivre tout en restant capables de se préparer si une nouvelle situation devenait survenir. Donc finalement, l'idée, elle est simple, c'est proposer la réponse au bon moment, sans médicaliser des réactions qui sont souvent normales après un événement exceptionnel, mais sans laisser seules non plus les personnes qui auraient du coup besoin d'un accompagnement. Une communauté, ce n'est pas les autres, c'est nous. Et on partage le même territoire, les mêmes ressources, les mêmes risques et d'une certaine manière, le même avenir. Donc tout ce que nous mettons en place aujourd'hui nous aidera finalement demain. Donc une catastrophe, comme on disait, change un territoire et la résilience ne consiste pas forcément à revenir exactement à la situation d'avant. C'est plutôt la capacité d'une communauté à continuer d'avancer ensemble malgré ce qui a changé, en développement de nouvelles ressources et en développement de nouvelles solidarités. Donc on ne peut pas toujours choisir finalement les épreuves auxquelles un territoire sera confronté. En revanche, on peut choisir la manière dont on y répond ensemble.
Ce dispositif s'adresse à des personnes qui ont eu peut-être des moments d'anxiété, du sommeil perturbé ou des souvenirs envahissants. Est-ce que c'est encore toujours d'actualité aujourd'hui ou alors est-ce qu'il y a eu un affect sur cette aventure ?
Eh bien, c'était tout l'enjeu des dispositifs, c'est-à-dire ne pas médicaliser ou pathologiser des réactions qui sont tout à fait normales à cette situation anormale, mais aussi pouvoir proposer des espaces de soins et de soutien aux personnes pour lesquelles ces réactions, elles persistent, elles perdurent et elles se cristallisent. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un parcours de soins gradué qui puisse être proposé aux bonnes personnes au bon moment.
Voilà. Durant l'été, je me souviens, sur un groupe Signal, Maud Rosenstiel indiquait le comportement normal ou la réaction normale des gens face à ce genre d'événement. Donc, c'était aussi dans la mesure d'y trouver une certaine normalité par rapport à l'événement.
Oui, ça a été un des premiers travaux engagés par la CPTS en même temps que les premières permanences où, justement, il était normal de réagir à ce qui se passait. Donc, on a rédigé ce message à plusieurs et en effet, c'est le docteur Rosenstiel qui l'a fait circuler sur les réseaux. Il a été coécrit du coup avec le médecin, psychologue, psychomotricienne pour justement rassurer que c'était normal de ressentir des choses, c'était normal d'avoir des signes physiques ou émotionnels. Et en effet, comme disait Charlotte, il y a un moment où ces signes-là, par le fait d'avoir été ensemble, qu'il y a eu des propositions, qu'on soit sentis collectivement soutenus et se soutenant les uns les autres, pour beaucoup, a contribué à ce que ces réactions-là s'estompent dans le temps. Et en effet, pour certaines autres personnes, ce n'est pas le cas et c'est ce qu'on essaye d'accompagner.
Il y avait justement la notion de colère aussi, dont elle indiquait aussi une réaction humaine par rapport à ce qui s'est passé. Et puis donc ce dispositif, vous proposez un groupe de 6 à 12 personnes. Pourquoi cette fourchette
C'est pour pouvoir proposer un cadre sécure À la base de tout groupe thérapeutique, on trouve la sécurité qui est à co-construire ensemble et à maintenir tout le long du cycle. Et pour nous, ça nous semblait être la taille de groupe optimale pour pouvoir assurer cette sécurité de bout en bout.
Et puis, il y a l'EMDR, on peut peut-être donner sa signification.
EMDR, c'est un acronyme anglais qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprogramming. Donc, finalement, en français, on pourrait le traduire par thérapie d'intégration des expériences traumatiques par les mouvements oculaires. C'est une des thérapies, c'est pas la panacée, hein, c'est une des thérapies, une des approches qui est aujourd'hui reconnue par l'HAS, l'Haute Autorité de Santé, ou l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ou encore d'autres instances, dans le traitement et la prise en charge des troubles de stress post-traumatique.
Alors, ce sont des séances de 2 heures, je crois, comme oui. Vous l'indiquez. Comment se déroule ce rendez-vous avec le public?
C'est un cycle qui se construit ensemble. Donc, on va avoir une première séance où on va surtout se rencontrer, voir où chacun en est, et puis construire le cadre de notre groupe ensemble, pour que chacun puisse se sentir à sa place et en sécurité. Et puis ensuite, la deuxième et la troisième séance permettront de mettre en place le protocole EMDR tel qu'il est validé, mais aussi grâce à la richesse de l'expérience des groupes de Claire et de ceux que j'ai pu porter dans le passé. Et la quatrième séance, à distance, celle-ci sera proposée en décembre pour consolider, se rencontrer et surtout préparer aussi l'après, s'il y a un besoin de réorientation par exemple, ou donner encore des ressources aux besoins.
Le module pour ce mois de septembre est complet. Il y a aussi une prise en charge opérée par la CPTS d'Iwa Saillant avec le soutien de l'ARS. C'est l'unique soutien que vous aurez pour une suite éventuelle ou alors, est-ce qu'il y a peut-être un démarchage auprès de l'administration pour y trouver peut-être un soutien sur ce genre de dispositif?
En tout cas, au niveau de la CPTS, les financeurs sont la CPAM et l'ARS. Après, on est toujours, on essaye de rester informé sur tout ce qui peut être proposé en termes d'appel à projet qui serait porté par d'autres financeurs. Mais en effet, actuellement, ce sont nos seuls financeurs. Et là, c'est vraiment dans le cadre d'un financement spécifique lié aux incendies.
Alors, ce dispositif, on a parlé de cette approche avec 6 ou 12 personnes, une présentation de chacun. Et puis, par la suite, il y a cette approche structurée issue de la psychotraumatologie. C'est ça. Alors, qu'est-ce que peut être cet aspect-là? Est-ce que quand vous recevez les personnes dans ce dispositif, je parle par rapport à ce que vous avez déjà pratiqué depuis juillet, est-ce qu'il y a un processus qui s'est mis en place, même s'il est déjà structuré, mais est-ce qu'il y a l'empathie aussi qui peut peut-être emmener sur des chemins peut-être moins évidents, je ne sais pas.
Comme le disait Charlotte, nous, les séances, elles sont préparées en amont et elles répondent à un protocole précis porté par Charlotte, du coup, qui est formée à l'EMDR. Mais en effet, dans nos pratiques respectives, on accompagne des gens, chacune dans nos métiers et avec nos compétences, sur en effet des ressorts humains de qualité soignant, de réflexion de posture, d'écoute, d'accueil, de non-jugement, qui sont la base de nos métiers. Au-delà de l'outil proposé, il y a bien évidemment une grosse réflexion engagée et co-construite aussi pour, encore une fois, garantir ce cadre et cette sécurité pour que chaque personne puisse être dans l'autonomie de se saisir et d'être acteur, actrice de son soin, comme il ou elle l'entend.
Et il y a, durant cet été, aux 12 rue Émile Laurent, au local du SAB 26, des rendez-vous qui ont été pris. Est-ce que vous avez estimé le nombre de personnes qui sont passées vous voir?
L'estimation est assez basse. On a eu peu de gens qui sont venus nous voir, mais beaucoup de gens qui nous ont remercié d'avoir fait ça ou qui se l'étaient conseillé entre eux. Après, on sait qu'il peut être difficile de passer la porte d'un lieu. C'est pour ça que, du coup, il y avait eu des réunions publiques aussi qui ont été proposées dans les villages c'était
Barsac et Solor, ouais.
Où là, du coup, c'était plutôt du coup, les soignants, donc là, c'était psychologues et médecins, Charlotte et Céline, qui se sont déplacés pour redonner de l'information, ce dont les gens avaient apparemment aussi le plus besoin, et permettant aussi de faire état de si le processus, comme je disais tout à l'heure, d'intégration de ces grosses émotions et sensations continuaient de suivre son cours, ou si pour des personnes, il se cristallisait.
Ce groupe offre un cadre collectif, structuré et soutenant. Comment se structure-t-il ? Est-ce qu'il y a une réelle participation des personnes présentes aussi dans ce dispositif et qui ont peut-être aussi droit à l'initiative ?
Bien sûr, c'est un groupe dans lequel on rentre grâce à un entretien préalable, individuel par téléphone, qui nous permet déjà de nous rencontrer individuellement, de sentir si d'un côté comme de l'autre, c'est un espace qui est pertinent à ce moment-là, de poser des questions, d'échanger des informations. Donc déjà, c'est un entretien d'une vingtaine de minutes qui préside vraiment l'entrée dans le groupe. Ensuite, chaque séance, comme le disait Claire, est très structurée dans le sens où on l'a préparée à l'avance et qui permet à chaque personne aussi d'y apporter sa contribution puisque on construit le cadre, comme je disais, en première séance. Et la clôture se fera aussi probablement avec un entretien individuel pour pouvoir aussi recueillir le ressenti des personnes, non seulement sur le contenu, mais aussi sur le contenant, c'est-à-dire la façon dont il a été pensé et proposé, pour pouvoir l'améliorer aussi en cas de besoin dans le futur.
Est-ce que les personnes qui vous ont contacté avaient vraiment une conscience d'un problème en elles qui les ont incitées à vous joindre, à vous contacter ? Ou alors est-ce qu'il y a aussi peut-être un déni de la personne et sur lequel il faut peut-être éclairer certaines difficultés ?
Ça relève d'informations plutôt confidentielles, je dirais. Donc je ne me permettrai pas là d'en parler. Mais bien sûr, pour pouvoir demander de l'aide, ça passe par une prise de conscience, en général, d'une souffrance. Donc c'est déjà un signe que s'il y a déni, celui-ci s'estompe petit à petit.
Je parlais par rapport à Claire qui indiquait des personnes proposer cet atelier à d'autres. Donc est-ce que ça répondait aussi des gens autour d'eux se rendaient compte que les personnes souffraient et que c'était une proposition qu'ils leur indiquaient.
Alors, pour le coup, là, ça, c'était plutôt sur la question des permanences. Mais en effet, parfois, il est plus simple de prendre soin des gens qu'on aime que de prendre soin de soi. Donc, on peut aussi potentiellement rencontrer des cas de figure où ça a été des indications faites soit par la personne elle-même, soit des proches qui l'ont conseillé. En fait, moi, en tout cas, ce n'est pas des choses dont j'ai spécifiquement connaissance. Mais pour ce qui était des permanences, c'est des choses qui avaient pu être remontées. Ou c'était une façon aussi pour chacun, chacune, de prendre soin de son entourage en rappelant les dispositifs existants. Après, c'est libre à chacun de se saisir de ce qui lui parle.
Il y a cette partie d'exposer un peu son expérience au sein de ce groupe. Il y a peut-être aussi une possibilité d'être soutenu dans cette démarche, parce que parfois les personnes n'ont pas forcément les mots. Et comment s'opère cette description ?
Alors, il ne s'agit pas d'un groupe de parole, dans le sens où on va limiter l'expression du détail des événements vécus, parce qu'on veut éviter ce qu'on appelle un phénomène de contagion émotionnelle. Donc, le fait moi-même, par exemple, de vous parler d'un ballon rouge peut référer en vous des souvenirs sur un ballon rouge ou rien que l'image d'un ballon rouge. Et donc, on veut éviter que les récits des différentes expériences soient partagés pour éviter de recharger le souvenir ou même d'empirer la situation. Donc, ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on va ensemble partager des ressources. Donc on va avoir le droit de parler, bien sûr, et ça va être encouragé, mais sur les ressources. Ce qu'on va par contre travailler par rapport aux incendies et des vécus difficiles, ça va être de façon individuelle, dans le cadre des protocoles EMDR, notamment par exemple avec un papier et un stylo sur un support individuel qui n'est pas partagé aux autres. Donc c'est comme ça que ce protocole prend à la fois soin d'un travail individuel de profondeur et d'un soutien collectif puissant et sécurisant.
Cette notion du groupe permet quoi justement dans cette démarche ?
Traverser ensemble ce qui a été vécu ensemble. On a, nous soignants compris, hein, on a été là, on a vécu directement, indirectement ce qui s'est passé. Et donc c'est dans une démarche plus globale aussi de santé communautaire que s'inscrit ces dispositifs. Comment, quand on vit quelque chose de difficile, on peut ensemble le traverser. Aujourd'hui, on explicite des dispositifs et des moyens pour pouvoir ensuite s'empouvoirer, s'en saisir plus tard et se sentir aussi de plus en plus capable de faire face à d'autres situations difficiles.
L'engagement, on ne va pas trop en parler puisque cette séance de 4 rendez-vous est déjà prise, complète. Mais dans le principe, il y a un engagement pour que les personnes soient présentes lors des 4 séances. Hein. C'est important selon vous.
Oui, parce que en fait, c'est un engagement qu'on prend tous. Comme le disait Charlotte, on va démarrer quelque chose ensemble et le finir ensemble pour le traverser ensemble. Donc, on a une attention, en tout cas, à ce que les personnes puissent être là à chaque étape, puisque c'est un dispositif, encore une fois, réfléchi et pensé, où chaque étape est importante. Voilà, c'est pour pouvoir continuer de prendre soin. Ça fait partie intégrante du travail engagé. Ouais.
Ce dispositif est consécutif aux incendies sur le Diwa, mais est-ce qu'il y a d'autres inquiétudes qui pourraient amener à ces groupes thérapeutiques? Je pense notamment à la canicule. Est-ce que cela amène aussi une certaine angoisse?
Disons que le motif circonscrit de ce dispositif est celui des incendies. Bien sûr, on aimerait pouvoir mettre les choses dans les boîtes pour que ce soit plus facile à comprendre et à accompagner. Mais l'humain est complexe et lorsqu'on parle des incendies, ça peut ouvrir d'autres boîtes, notamment celle de la canicule, comme vous le mentionnez. Mais le fait de se lever le matin et de voir le paysage qui a changé, d'imaginer le futur aussi. Donc c'est un groupe thérapeutique qui est certes né d'une expérience passée, mais qui cible aussi des préoccupations futures et des anxiétés encore persistantes dans le présent.
Effectivement, ces aventures impactent la vie de beaucoup, hein, dans ses perspectives notamment, et donc une inquiétude de peut-être un retour systématique d'incendie ou de réchauffement climatique. Ça, c'est ce que vous avez pu percevoir dans ces groupes de parole durant l'été aussi, la notion du futur, l'inquiétude.
Bien sûr, le futur fait déjà partie de notre présent et c'est aussi pour ça que ces dispositifs, on les pense pour pouvoir vraiment non seulement penser le passé, mais se préparer au futur. Et l'idée, c'est surtout de voir qu'un état de vigilance, il peut être sain. Il peut nous permettre de nous préparer, de mobiliser une énergie, de réfléchir, de coopérer, décider ensemble d'actions justes pour le territoire. Mais ça se fait lorsqu'on a un cerveau qui est régulé. Et donc tous ces dispositifs, ils sont là aussi pour aider notre cerveau à digérer, à traiter les informations qu'on a peut-être vécues dans un laps de temps très court et en grande quantité, et pour pouvoir continuer à réguler notre système nerveux et continuer à pouvoir cultiver ces capacités de réfléchir, coopérer, agir ensemble.
Alors ce soutien est effectif avec la Caisse primaire d'assurance maladie, l'ARS, mais pourquoi seulement un dispositif, sachant que peut-être que l'impact peut être plus long dans la durée pour certains individus?
Ça, c'est des décisions qui ne se prennent pas au niveau du territoire. Donc nous, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que il y a une situation qu'on appelle exceptionnelle, hein, qui a été déclenchée et qui a permis de... de débloquer un petit budget pour le territoire qu'on a essayé du coup d'utiliser au mieux en proposant un maximum de dispositifs différents pour toucher aussi différentes personnes à différents moments de leur processus. En tout cas, il y a des décisions plus politiques, plus grandes que nous. Après, on peut toujours, en tant que citoyen, saisir ces élus locaux pour parler de ses préoccupations ou autres, qui dépassent pour le coup le cadre de la question soignante territoriale.
C'est peut-être le rôle du CPTS d'éveiller les consciences au niveau de l'administration ou de collectivités.
En tout cas, nous, on œuvre en partenariat. Hein. On a des partenariats avec différentes structures du territoire, que ce soit au niveau hospitalier, au niveau des communautés de communes, au niveau des centres médicaux. On a des dialogues chaque année avec la CPAM et l'ARS où on fait remonter les réalités de terrain. Ce sont du coup des dialogues. Donc, l'ARS, la CPAM nous parle de ce qui leur paraît important. Nous leur parlons de ce qui nous paraît important sur le territoire. Et on essaye comme ça d'avancer avec le budget non illimité dont nous disposons. Et du coup, différents types d'actions sur le territoire pour essayer de pallier un certain nombre de sujets.
Qu'est-ce qui vous a amené chacune, puisque vous dites être arrivée récemment dans le Diwa, c'est un cadre idyllique pour vous de pratiquer sur le Diwa, par exemple?
Alors moi, dans mon cadre, j'avais été informée que la psychomotricienne libérale avant moi souhaitait arrêter son activité au moment de mon diplôme. Du coup, J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. J'ai d'abord exercé sur Lyon dans une équipe pluridisciplinaire. Et puis quand l'envie de quitter la grande ville m'a pris, j'ai repensé à Die, où j'étais, voilà, où je trouvais le cadre pour le coup environnemental très plaisant et où je savais que il n'y avait plus de psychomotricienne diplômée d'État en libéral. Et donc j'ai proposé de venir m'installer.
Cette fonction de psychomotricienne permet quoi dans ce dispositif? Est-ce qu'il y a... On peut peut-être définir ce qu'est justement votre activité de psychomotricienne et en quoi elle est conséquente et compatible avec ce dispositif?
La psychomotricité, c'est une discipline paramédicale, donc avec un diplôme d'État. Ça relève de différents champs, que ce soit de l'éducation, de la rééducation ou de la thérapie psychomotrice. Psychomotrice, ça veut dire quelque chose qui est au cœur de ce que disait Charlotte, que l'humain il est complexe, donc à la fois des mouvements émotionnels, des mouvements corporels et un peu aussi de l'influence du psychique. Et donc, le champ d'action se situe à cette circonférence-là pour être en relation de soi à soi de la manière la plus apaisée possible et de soi à l'autre. De fait, dans ces approches corporelles, on est amené à accompagner aussi des personnes en situation de post-traumatisme pour retrouver de la sécurité dans le corps avec différentes approches, différentes méthodes qui relèvent pas du coup du champ de la psychologie ou de l'EMDR, qui sont des approches plus corporelles, de conscience corporelle, de relaxation, de discussion aussi autour des sujets corporels qui parfois sont nécessaires aussi. Et c'est un champ très très vaste qui peut accompagner l'enfant dès la naissance, voire avant, jusqu'à la fin de vie, en passant par tous les types de handicaps physiques, mentaux, moteurs, psychiques, plus les troubles du neurodéveloppement dans différentes institutions. Donc en libéral, je reçois un peu tout le monde, mais là spécifiquement du coup pour ce groupe, c'est cette posture de soignant du coup qui a l'habitude d'écouter, d'accompagner, de repérer aussi les mouvements corporels et les petits signes de changement d'humeur des personnes qui permettent de garantir un cadre où il y a une personne qui peut mener, là, dans ce cas-là, Charlotte, un protocole précis et une autre personne qui reste dans une attention à ce qui peut se passer en termes de mouvement pour les personnes présentes.
Lors de ces dispositifs avec les personnes présentes, est-ce qu'elles se mettent elles-mêmes aussi en situation peut-être de soutenir les autres parties en présence, ou alors chacun s'occupe d'abord de soi?
Eh bien, on vous dira peut-être à l'issue du groupe, parce que chaque groupe est différent et en tout cas chacun y vient et y recevra du soutien. Mais on sait aussi qu'il y a, plusieurs critères qui nous permettent de nous sentir mieux après un événement de ce type-là. C'est le fait d'être relié, c'est de se sentir soutenu, c'est aussi le fait de savoir s'auto-apaiser. Donc on va pouvoir aussi développer ensemble des outils de gestion du stress. Mais c'est aussi de pouvoir se sentir efficace pour soi et pour les autres. Et donc ça, c'est un critère qui permet soi-même de se sentir aussi mieux après avoir vécu une expérience stressante, comme ça a été le cas. Et donc oui, effectivement, de pouvoir soutenir les autres permet aussi, parfois, souvent, de se sentir mieux soi-même. Quand on s'est senti démuni, impuissant, et bien retrouver une prise avec une capacité d'action, ne serait-ce que de pouvoir poser une main sur une épaule de quelqu'un qui est en besoin, et bien oui, ça peut avoir un impact fort.
À votre connaissance, est-ce qu'il y a eu une mise en place de ce genre d'atelier, je appelle ça atelier, lors de l'avènement du Covid? Est-ce que les gens se sont retrouvés aussi dépossédés de leur existence par ces contraintes de confinement notamment, ou autre chose?
Alors moi, j'habitais en Inde à ce moment-là, dans une communauté internationale intentionnelle qui s'appelle Auroville, qui regroupe à peu près 50 nationalités dans le sud-est de l'Inde, près de Pondichéry. Et donc, c'est la seule façon que j'ai connue de vivre le Covid. J'y étais pendant 2 ans. Et donc, oui, il y a eu des sentiments d'impuissance, mais aussi des élans de solidarité, des actions mises en place, comme ça a été le cas aujourd'hui ici avec les incendies. On a pu voir des professionnels de santé, des ostéopathes, des kinés, des masseurs qui se sont organisés aussi ensemble pour se mettre au service de ce qui se présentait, avec chacun sa place, ses compétences, mais aussi son énergie du moment. Parce que ce n'est pas parce qu'on est psychologue, par exemple, que c'est pour nous le bon moment d'aider à ce moment-là. Moi-même, j'ai eu besoin de partir 2 jours pour pouvoir après revenir et avoir l'énergie pour pouvoir soutenir à mon tour. Donc voilà, c'est surtout sentir où on en est à ce moment-là et qu'est-ce qu'on peut faire au bon moment.
Est-ce qu'on peut aussi définir la neuropsychologie? Quelle incidence cela produit sur l'individu, et en quoi vous allez pouvoir justement aider?
Alors oui, la neuropsychologie, c'est une spécialisation du diplôme de psychologue. Donc lorsqu'on est psychologue, on peut faire une spécialisation en neuropsychologie, comme on peut se spécialiser en psychologie du travail ou en psychologie du développement, par exemple. Donc la neuropsychologie, c'est finalement une façon de pouvoir appréhender les capacités cognitives, le langage, la coordination des mouvements, la mémoire, pour pouvoir l'évaluer quand il y a des altérations et pour pouvoir aussi les réhabiliter. Donc finalement, moi, la première partie de mon parcours professionnel, c'était dans des centres de soins de suite et de réhabilitation où j'accueillais des personnes et on faisait des bilans cognitifs pour pouvoir ensuite proposer des parcours de réhabilitation, de rééducation dans le cadre de traumatismes crâniens ou d'AVC. Mais la neuropsychologie, c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi un domaine dans lequel on accueille des personnes qui, comme le disait Claire, ont des particularités de fonctionnement, comme les troubles du neurodéveloppement, par exemple. Et voilà, aujourd'hui, je ne pratique pas en tant que neuropsychologue, dans le sens où je ne propose plus de bilan neuropsychologique. Ma pratique aujourd'hui est complètement focalisée sur la thérapie.
Tu voulais rajouter, Claire?
Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que tu es venue t'installer dans le Diwa.
Eh bien, comme je le disais, j'ai vécu pendant 5 ans en Asie, pendant ces 5 ans, j'ai voyagé avec 2 questions dans mon sac à dos. Qu'est-ce que la santé et comment cultiver la vie ? Et j'ai posé ces questions aux personnes que je rencontrais sur mon chemin, des grands-mères, des médecins, des professeurs de yoga, des moines, des guérisseurs. Donc, toutes ces questions-là ont finalement nourri moi-même ma vision de la santé. J'avais passé plusieurs années à étudier la maladie et comment la réparer. Et donc, j'avais besoin de comprendre la santé et surtout de la sentir par le corps. Donc, ce voyage-là de 5 ans m'a permis vraiment de pouvoir grandir, pas des réponses, mais en tout cas des pistes d'accompagnement au plus près de l'humain et peut-être un peu plus loin de ce que j'avais appris sur les blancs bancs de l'école de façon plus froide et protocolaire. Et donc, après ces 5 ans en Asie, j'ai vécu 2 ans dans une communauté internationale qui s'appelle Auroville. En Inde, une communauté qui ressemble un peu à une école géante dans laquelle tout n'est pas parfait, ça rate, ça se débrouille, il y a des conflits. Mais il y a une intention commune de vouloir apprendre et continuer à apprendre sur le versant de l'éducation, de l'écologie, du soin, de la santé mentale. Et de vivre là-bas m'a permis, de la justice aussi, m'a permis de sentir à quel point je pouvais agir à mon échelle, la part du colibri, on peut dire ça comme ça. Et du coup, après, que ça venait avec une responsabilité. Comment, dans l'endroit où j'allais vivre ensuite, j'allais pouvoir m'en saisir de cette responsabilité et faire ma part. Et donc, pendant à peu près 1 an, avec mon époux, on a voyagé en France pour vraiment décider où on voulait s'installer. Et on a décidé de s'installer à Die, parce qu'on a senti que c'était déjà une communauté dans laquelle il y avait des intentions fortes. Il y avait aussi des conflits, des gens pas d'accord. Mais finalement, il y avait des valeurs centrales et une vraie volonté de faire, d'essayer. Et donc, c'est ça qui nous a fait rester ici.
C'est ce qu'on a pu observer hein, lors de ces incendies, hein, cet élan de solidarité avec beaucoup de monde hein, qui se sont retrouvés un peu sur le côté parce que tellement de monde était présent qu'il n'y en avait pas pour tous. Hein. Alors, vous êtes agissant au niveau du CPTS, hein, du Sayondiwa, une structure à laquelle vous adhérez. Est-ce que cela permet, au-delà de ce dispositif du mois de septembre, de pouvoir vous rencontrer aussi, de vous retrouver sur d'autres aspects ?
Oui, la CPTS fonctionne avec des porteurs, porteuses de projets. Donc, en fait, elle déploie sur le territoire des projets divers pour augmenter les compétences des soignants. Donc, parfois avec des conférences ou avec des formations sur des sujets variés, mais aussi de créer des parcours de soins pour les usagers et usagères. Il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place. Partenariat avec les acteurs locaux, comme je disais. En fonction des sujets, on peut retrouver en effet certains de nos collègues. Donc, moi, je suis porteuse de projet sur le sujet de l'addictologie et sur le sujet des violences intrafamiliales, mais il existe des projets sur la détection, l'accompagnement de la santé visuelle, notamment des enfants, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a des choses aussi pour accompagner la détection d'insuffisance cardiaque ou les choses en lien avec la détection des cancers, des choses plus médicales, des choses plus communautaires, des aspects différents de la santé, des théories du soin différentes. Et c'est un peu justement comment on fait ensemble sur notre territoire pour s'auto-organiser en tant que soignant, financé toujours du coup par la CPAM et l'ARS, par rapport à des besoins de territoire.
Pour vous joindre, hein, CPTS, il y a un site internet, je pense.
Oui, tout à fait, CPTS. Alors, je ne le connais pas de tête, mais si vous tapez CPTS Divois Saillant, vous le trouvez tout de suite.
Et puis, il y a eu cette ouverture hein, aussi de ce local rue Buffardel.
Tout à fait. Au tout début de la rue Buffardel, il y a le local de la CPTS avec les affichages justement des actions en cours, des conférences proposées ou des accompagnements proposés en ce moment. Et le salarié Mathieu qui travaille, notre coordinateur, Voilà, donc s'il y a quelque chose de spécifique à demander, bien sûr, c'est possible. Vous pouvez nous contacter par mail. Voilà.
Pareil pour vous, Charlotte, vous avez une activité en proposition tout au long de l'année à l'adresse de personnes qui le souhaitent.
Alors oui, je pratique en libéral, donc j'ai mon cabinet 12 Place du Mazel à Die. Et pour le moment, je n'ai pas la possibilité d'accueillir de nouvelles demandes de suivi.
En tout cas, s'il y a des gens qui nous ont écoutés et qui ressentent qu'ils pourraient avoir besoin de demander de l'aide, ça peut toujours être utile d'en discuter avec votre médecin traitant, voilà, qui peut réorienter, donc soit vers le paramédical, comme moi en psychomotricité, soit du coup vers les accompagnements psychologiques si on a de disponibles sur le territoire. Juste de ne pas rester seul, en tout cas si vous vivez des choses qui perdurent dans le temps et qui altèrent votre qualité de vie.
Et si vous n'avez pas de médecin traitant, un médecin généraliste aussi.
Oui, n'importe quel.
Quelle est la différence entre un médecin généraliste et un médecin traitant ?
Le médecin traitant, c'est juste qu'il est déclaré. Du coup, en effet, c'est un abus de langage que j'ai fait, mais vous pouvez contacter les médecins généralistes du territoire s'il se passe quelque chose pour vous.
Claire Pereira et Charlotte Leroy, je vous remercie d'être venues sur Air du Bois pour nous parler donc de ce module du groupe thérapeutique EMDR après les incendies qui ont lieu en septembre et hélas complet. Et je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Questions she asked. dark clouds.